Évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a l'ivraie ? Et il leur dit : Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent : Veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions ? Et il dit non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : Cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel, il est vrai, est plus petit que toutes les semences. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi trois mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant : J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison, et ses disciples vinrent à lui, disant : Expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et lui répondant leur dit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont des anges. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché. Et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes, et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit : Avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui disent : Oui, Seigneur. Et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles.
Quelques mots d'introduction sur le sujet que nous désirons aborder de l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Nous voulons d'abord rappeler que dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous est présenté comme le Messie dans ses relations avec son peuple, avec les Juifs, un peuple que Dieu avait séparé pour lui-même. Et le chapitre 12 montre la fin d'une dispensation, la fin de la cinquième dispensation, celle d'Israël, que l'on a appelée de l'homme sous la loi. Et dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que le Seigneur, le Messie, a cherché du fruit dans sa vigne, dans Israël, mais en vain. Nous pouvons nous souvenir que dans l'évangile de Matthieu, il nous est relaté 14 grands miracles, et la preuve en était justement que le Seigneur Jésus était bien le Messie d'Israël qui avait été annoncé par les prophètes. Et nous voyons donc que Israël est appelé dans Matthieu 12, dans ce 12e chapitre, est appelé une génération méchante. Une génération méchante qui va être livrée maintenant à des esprits immondes. Et dans ce chapitre 12, nous voyons que les chefs des Juifs ne pouvaient pas aller plus loin dans la méchanceté, puisqu'ils ont attribué au chef des démons les miracles que le Seigneur Jésus opérait. Et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le péché contre l'esprit. Et donc, c'était un péché qui ne pouvait être pardonné. Pouvons relever trois expressions dans Matthieu 12. Celui qui nous parle, il nous est dit qu'il est plus grand que le temple. Celui qui nous parle est aussi plus grand que Jonas. Et celui qui nous parle dans Matthieu 12, dans Matthieu 13, est aussi plus grand que Salomon. Et on a évoqué dans nos prières ce fait, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il est plus grand que le temple. Pourquoi ? Parce qu'il est venu nous révéler le Père, le Fils de Dieu qui était dans le sein du Père, nous a révélé le Père lui-même. Nous connaissons le Père parce que le Fils de Dieu est venu nous le faire connaître. Il est aussi plus grand que Jonas. Nous souvenons du signe de Jonas. Donc notre Seigneur est mort et est ressuscité. Il est plus grand que Salomon, parce qu'aujourd'hui il est exalté dans les cieux. Il est ressuscité, il est exalté dans les cieux. Et nous pouvons voir en lui donc le Seigneur Jésus qui est au-dessus du temple, qui est plus grand que le temple, qui est plus grand que Jonas et plus grand que Salomon dans toute sa gloire qu'il a maintenant dans le ciel. Dans Matthieu 12, à la fin de Matthieu 12, nous voyons maintenant que le Seigneur met de côté des relations naturelles qu'il avait avec Israël. Nous avons trois versets qui nous parlent de cette mise de côté, et nous voyons bien là que c'est la fin d'une dispensation, la dispensation de la loi. Et au début de Matthieu 13, nous voyons que le Seigneur sort. Il sort d'Israël. Et il annonce dans les sept paraboles de Matthieu 13 quelque chose de nouveau. Israël était une génération méchante, mais nous voyons que maintenant, par la parabole du semeur et la semence du semeur, il va avoir une nouvelle famille qui va être formée, c'est-à-dire cette famille sera composée de ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans le cœur. On peut faire aussi le lien entre Matthieu 12 et Matthieu 13. Dans Matthieu 13, donc, il nous est parlé de Jonas, et il est parlé aussi de Ninive. Et Ninive, nous nous souvenons que c'était une ville des nations, et bien qui s'est repentie. C'est une ville qui s'est repentie. Et nous voyons aussi que la parole du semeur, quand elle tombe dans une bonne terre, dans les cœurs, eh bien la première chose qu'elle produit, c'est la repentance. Et donc la nouvelle famille qui va être formée dans Matthieu 13 par cette parole qui tombe dans le cœur, eh bien le premier signe que cette parole tombe dans ce cœur, dans une terre préparée, eh bien, c'est la repentance. La repentance, bien sûr, avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc cette belle expression du verset premier du chapitre 13. En ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Cette expression nous parle que le Seigneur se tourne maintenant vers les nations. La parole du semeur, bien sûr, est pour toutes les nations, mais aussi pour les Juifs qui seront amenés à croire, à avoir la foi en Jésus-Christ. Les paraboles dont nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 13, nous présente donc, pour ainsi dire, le début, le commencement d'une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, le Seigneur, il nous donne une anticipation de ce qui va arriver après la croix de Golgotha, après la crucifixion de notre Seigneur, après qu'il soit monté dans le ciel, exalté auprès de Dieu, à sa droite, et après, bien sûr, la descente du Saint-Esprit sur la terre. Le début réel, bien sûr, de cette dispensation de la grâce, nous la trouvons dans Acte 2. Mais ici, nous avons déjà une anticipation de cette période de la grâce. Et pour ainsi dire, nous avons la présentation de ce que va devenir la chrétienté, avec des éléments qui ont la vie et des éléments qui n'ont que la profession. Peut-être qu'il faudrait, nous n'avons pas envisagé avec les frères de Strasbourg, de parler un petit peu plus de la parabole du semeur. Peut-être que ce serait l'occasion pour donner la continuité avec les six autres paraboles, que quelques frères nous donnent quelques instructions sur le sujet.
Permettez-moi d'insister sur ce qu'on vient d'entendre. le début du chapitre 13 est la charnière de l'évangile de Matthieu. Avant, et nous l'avons entendu, le Seigneur se présentait comme Messie pour Israël. Comme preuve, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il a dit « N'allez pas vers les nations, n'allez pas vers les Samaritains, mais allez vers... » on trouve ça dans le chapitre 10, « Mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, il y avait le Seigneur qui était venu jusqu'à la fin du chapitre 12, sur lequel on a insisté, était venu pour Israël, exclusivement pour Israël. Et puis, comme on l'a entendu dans le chapitre 12, mais déjà dans le chapitre 11, son enseignement est rejeté. Ses œuvres seront rejetées, de tristes témoignages qu'on ne voulait pas de lui. Et alors, le Seigneur se tourne vers la mère qui nous parle des nations sortant de la maison d'Israël. Il y a un parallèle peut-être à faire d'ailleurs avec l'histoire de Joseph dans le chapitre 37 de la Genèse. Vous savez que Joseph a été envoyé, il arrive à Sichem qui nous parle de portion, on peut penser à la portion d'Israël. Ben, il n'y a pas trouvé ses frères. Et ça, c'est accessible aux enfants. Il aurait pu dire, bon, ils ne sont pas là. Ok, j'avais à aller à Sichem, j'ai rempli mon mandat, ils ne sont pas là, je m'en vais. Et je retourne chez mon père. Ben non. Le voilà qui va les chercher jusqu'à Dothan. Et là, nous avons la persévérance de notre Seigneur. L'évangile ne se termine pas avec le chapitre 12 et son rejet. Mais le Seigneur va venir maintenant autrement qu'il n'est venu jusqu'à présent, jusqu'à la fin du chapitre 12. Il était venu comme Messie d'Israël. D'ailleurs, il dit en envoyant ses disciples, « Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. » Vous direz, « Mais attends, Seigneur, tu es là. » Et il parle de la venue du Fils de l'homme comme étant future. Attends, je ne comprends plus. Oui, mais il était là comme Messie d'Israël. Et à partir du chapitre 13, il vient comme Fils de l'homme, non plus pour Israël en tant que peuple, mais pour tout homme qui met sa confiance en lui. D'ailleurs, les paraboles, ça va peut-être vous choquer, c'est une forme de jugement sur Israël, de peur qu'en entendant, « En entendant, vous entendrez, vous ne comprendrez point », c'est dans le chapitre 13. Et surtout cette expression qu'on ne peut pas comprendre si on ne prend pas en compte ce qui nous a été dit tout à l'heure quant aux dispensations. De peur qu'il ne voit des yeux, qu'il n'entend des oreilles, qu'il ne comprenne du cœur et qu'il ne se convertisse. Quand on ne voit pas cette séparation du chapitre 13, on n'y comprend plus rien. On dit, mais enfin, tu ne veux pas sauver tous les hommes. Mais en tant que peuple, Israël est mis de côté. Relations sont suspendues pour ouvrir, comme on l'a entendu, une nouvelle dispensation. Dispensation où il vient cette fois pour le monde entier comme Fils de l'homme. Et alors qu'il aurait dû venir récolter, puisqu'on nous a ouvert la possibilité de dire un petit mot sur la première des sept paraboles, il aurait dû venir pour récolter, comme le Fils est allé vers les vignerons pour recevoir du fruit. Qu'est-ce qui a poussé ? Ah, rien du tout. Et il vient cette fois de nouveau comme celui qui vient semer. Il vient semer sa parole. Et les sept paraboles, excusez-moi si je suis un tout petit peu long, ces sept paraboles sont des paraboles du royaume des cieux. Dans Daniel, nous avons cette expression qui est dit à Nebuchadnezzar, afin que tu saches que les cieux dominent. Par rapport aux empires du monde, par rapport à Nebuchadnezzar, même à Cyrus et d'autres, Non, c'est les cieux qui dominent. C'est-à-dire, les choses ont changé, c'est même pas pour Israël comme Messie, mais maintenant, le royaume va être dirigé des cieux, par Dieu, le royaume de Dieu aussi, que nous trouvons à d'autres endroits. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? C'est partout, partout, où l'autorité de Dieu est reconnue. C'est donc beaucoup plus vaste que l'Assemblée. C'est partout où partout où on est soumis à Dieu, peut-être extérieurement, c'est les trois premières paraboles des six que nous avons lues, ou alors quelque chose qui est plus pour nos cœurs, les trois dernières, qui nous parlent non pas du côté extérieur du royaume des cieux, mais du côté plus intérieur. Excusez-moi pour la longueur.
Peut-être aussi en introduction, quelque chose sur la question du royaume qu'on vient d'aborder. Le sujet du royaume, le royaume de Dieu, est un sujet très important dans toute la Bible. Et on pourrait dire, dans le propos de Dieu, le sujet du royaume est très important et plutôt en rapport avec la terre. Et de notre côté, il y a le propos de Dieu en relation avec le ciel, et le sujet là est plutôt celui de l'assemblée. Donc royaume et assemblée, ce sont deux grands thèmes de la Bible, deux grands propos de Dieu qui sont très importants et qu'on voit plus ou moins côte à côte dans les passages qui sont devant nous, mais qui sont distincts. Et donc on a mentionné que les paraboles ici, ce sont des paraboles du royaume des cieux, et il vient de nous être dit que l'expression « le royaume des cieux » montre que celui qui domine, celui qui a autorité, est dans le ciel. Le royaume des cieux, il est sur la terre, mais le gouvernement du royaume des cieux, l'autorité du royaume des cieux est dans le ciel. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. Quand il est dit plus loin que Pierre a les clés du royaume des cieux, il faut oublier toutes les histoires que l'on entend avec Pierre qui utilise ses clés pour faire entrer les gens dans le ciel, c'est faux. Le royaume des cieux est sur la terre. Et qu'est-ce que ce chapitre montre de particulier, d'important, en rapport avec ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament? Si je peux faire un petit résumé, Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament un royaume. Mais on ne peut pas donner les références, maintenant ça serait trop long. Mais à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, Dieu a annoncé un royaume sur la terre, une promesse d'un royaume à venir sur la terre. Et que ce royaume serait, le roi de ce royaume serait son fils. Que ce royaume serait centré à Jérusalem. Que ce royaume serait introduit par des jugements et que les caractéristiques essentielles de ce royaume sur la terre seraient la justice et la paix. Et que Israël serait au centre de ce royaume, mais que la bénédiction de ce royaume serait pour toutes les nations de la terre. Voilà ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et le roi de ce royaume est venu, on l'a expliqué dans le début de l'évangile de Matthieu. Le roi est venu, l'évangile du royaume a été prêché, mais le roi a été rejeté. Et le roi rejeté est remonté au ciel. Et donc, il faut prendre les choses de ce point de vue-là. Le roi a été rejeté, il est au ciel. Donc, le royaume promis dans l'Ancien Testament n'est pas introduit sur la terre. Pas encore, c'est reporté, ce n'est pas annulé, mais c'est reporté à un temps futur. Mais ces paraboles nous décrivent le temps qu'il y a, toute la période entre ce moment où le roi rejeté est au ciel, jusqu'au moment où ce roi va revenir établir son royaume en puissance sur la terre, comme promis dans l'Ancien Testament. Donc le royaume des cieux, c'est cette période, cette parenthèse, entre le rejet du roi qui est monté au ciel est le moment où le royaume de Dieu va être introduit réellement sur la terre comme annoncé dans l'Ancien Testament. Et pourquoi il est question des mystères du royaume des cieux ? Il a parlé du mystère du royaume des cieux, verset 11. C'est parce que justement, la nouvelle forme de ce royaume était inconnue dans l'Ancien Testament, inattendue. C'est quelque chose qui n'était pas connu de l'Ancien Testament, que le roi allait être rejeté et que les choses allaient être différentes de ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une forme nouvelle, mystérieuse, qui nous est présenté dans les paraboles. Et donc, comme il a été dit, ce royaume des cieux, cette phase transitoire, cette parenthèse, eh bien, c'est le domaine, c'est l'ensemble des personnes qui reconnaissent, au moins extérieurement, l'autorité de Jésus-Christ. On pourrait dire tous les baptisés, en quelque sorte, tous ceux qui professent d'une manière ou d'une autre reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Eh bien, ces paraboles nous montrent quelle va être l'histoire, pour ainsi dire, de cette profession chrétienne sur la terre.
Ça veut dire le début de ce temps et la fin, c'est une personne, c'est Christ. Lui est le sèmeur, lui est celui qui commence... Qui nous montre dans cette première parabole, qui n'est pas encore une parabole des cieux, qui est une certaine introduction pour les six paraboles qui suivent, pour nous montrer que lui est celui qui sème. Nous savons, particulièrement aussi par la deuxième parabole, qu'il utilise certainement des hommes aujourd'hui qui sèment à sa place, mais c'est lui qui donne la parole, qui est appelée ici dans le verset 19 la parole du royaume. Dans Luc, c'est la parole de Dieu, c'est sa parole qui est sémée, qui est prêchée pour introduire les personnes dans ce royaume. Et c'est la parole qui doit être reçue pour être vraiment, ça veut dire d'après les pensées de Dieu dans le royaume, mais nous avons déjà entendu, si on reçoit, ça veut dire que si on accepte la parole seulement extérieurement, on est quand même dans cette partie sur la terre où on accepte l'autorité du Seigneur. Déjà dans le premier parabole, le Seigneur nous montre le développement dans cette parabole. Il ne nous montre pas seulement qu'il y a seulement une petite partie qui l'accepte comme sauveur, qui est montrée par bonne terre, verset 23, mais il nous montre aussi un développement, la fin du verset 23, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ça nous montre que même pour ceux qui sont des vrais croyants, il y a un déclin dans le temps de ce royaume jusqu'à la fin. Et les trois premiers paraboles qui parlent du royaume, des paraboles du royaume des cieux, nous montrent le développement dans ce royaume. Extérieurement comme intérieurement. Le développement jusqu'à la fin. C'est le royaume des cieux qui a été fait semblable à un homme qui semait. Deuxièmement, ce royaume des cieux qui est semblable à un grain de moutarde, qui nous montre particulièrement le côté extérieur. Et troisièmement, verset 33, le royaume des cieux, semblable à du levain, qui nous montre le côté intérieur de ce royaume. Et comme nous avons entendu, les trois paraboles suivantes nous montrent la valeur intérieure que le Seigneur voit dans ce royaume, même s'il y a aussi des incrédules, mais il voit quelque chose d'un grand prix, d'une grande valeur. La première parabole, elle me semble, nous montre deux côtés de ce développement, le début particulièrement et la fin. Dans la parabole, à partir du verset 24, c'est plutôt le début qui est montré, et dans l'explication du Seigneur, il souligne particulièrement la fin de ce temps où il y a ce jugement, cette distinction, etc. Et le grand sujet, c'est qu'il y a dans le royaume une séparation de ceux qui appartiennent au Seigneur et qui, de ceux qui sont les fils du diable, les fils des, comme c'était cette, des méchants, du méchant, merci. Et deuxièmement, cette séparation est en même temps un mélange. Ça veut dire, par la vue de dehors, pour nous, comme hommes, il n'est même plus visible, on n'est même pas capable de vraiment distinguer entre, pour un certain temps, entre ceux qui sont sommes des fils de Dieu et ceux qui sont des fils des méchants. Et le Seigneur nous enseigne comment agir envers cette situation de mélange qui n'est certainement pas un symbole de l'assemblée, parce que dans l'assemblée, il faut agir. Mais ici, nous voyons que le Seigneur nous enseigne différemment.
C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Quelle différence entre l'Église ou l'Assemblée et le royaume des cieux? Tout d'abord, la parole de Dieu n'oppose jamais les deux. J'aimerais juste lire un verset dans Actes 20. L'apôtre parle aux anciens d'Éphèse et il leur dit au verset 25: Et maintenant, voici, moi, je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Et puis un peu plus loin, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Donc les deux existent, elles ne s'opposent pas. Certains, à certains moments, ont cherché à opposer les deux. Non, dans ce que Dieu nous présente, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction. C'est juste que c'est, pour imager, en quelque sorte, deux sphères différentes. Le royaume des cieux, c'est une sphère plus large, on l'a vu, qui comprend des professants avec la vie et des professants sans la vie. Il y a aussi dans le temps une différence. Le royaume des cieux, il comprend la tribulation par laquelle le peuple d'Israël devra passer avant de reconnaître leur Messie, avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, le millénium. L'Église, c'est une sphère plus restreinte, puisque n'appartiennent à l'Église corps de Christ que ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, donc ceux qui ont réellement la vie. Et c'est pour cela que dans le royaume des cieux, le Seigneur nous prévient à l'avance, il ne nous est pas donné à nous de faire un jugement séparatif entre les vrais et les faux croyants. On en serait d'ailleurs incapable. Mais dans l'Église, dans l'Assemblée, il y a cette responsabilité d'ôter le méchant, de rejeter les fausses doctrines.
Je voudrais juste revenir sur un mot ou une expression qu'on a employée, qu'on ne comprend peut-être pas toujours, dont on ne comprend peut-être pas toujours la portée, c'est profession chrétienne et c'est professant, chrétien professant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, la profession chrétienne, ça ne veut pas dire que mon métier est d'être chrétien. Ça peut paraître banal de le dire, mais c'est la première des choses. Donc ce terme profession chrétienne, il signifie autre chose. Il signifie en fait que nous disons ou nous associons à ceux qui portent le nom de chrétien. Un chrétien professant, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire « mais moi j'ai été baptisé, mais moi j'ai été au catéchisme ou à l'école du dimanche, mais moi j'ai été enfant de cœur, il y en a, on est catholique, mais moi j'ai fait ceci, mais moi j'ai fait cela, mais moi j'ai une Bible à la maison. » Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens disent « ah moi je suis un chrétien, je suis un bon chrétien peut-être parce que je fais des bonnes œuvres, je suis ni un païen, ni un musulman, ni ceci, ni cela, je suis un chrétien. » Ça, c'est ça la profession chrétienne, professer d'être chrétien, c'est-à-dire déclarer ou prendre la position d'être un chrétien. Alors, il y a des professants, effectivement, comme on l'a dit, et tout à l'heure, Étienne l'a dit, il y a des professants qui n'ont pas la vie, et il y a des professants qui ont la vie. C'est-à-dire quoi? Nous sommes, à partir du moment où nous tous ici, nous sommes des chrétiens, nous professons, dans ce sens-là, d'être chrétiens. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend? Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est quand il y a la vie de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir été au catéchisme, d'avoir été baptisé, etc., pour avoir cette vie divine. Mais il faut avoir cru au Seigneur Jésus, l'avoir reçu comme son Sauveur, le connaître comme son Seigneur, avoir, être né de nouveau. Nous pouvons bien espérer que chacun ici, nous sommes tous des professants chrétiens, nous disons que nous sommes chrétiens, nous ne sommes ni païens ni musulmans, nous professons d'être chrétiens, mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait en nous la vie. Nous soyons nés de nouveau par la foi au Seigneur Jésus. Alors, c'est simple, mais je pense, on s'aperçoit quelquefois quand on a certaines questions, je ne vais pas développer, mais notamment des questions quant à la certitude du salut et certains passages difficiles ou qui paraissent difficiles dans les épîtres, que c'est souvent le fait qu'on ne comprend pas que la parole s'adresse aussi à des gens qui professent d'être chrétiens, qui ont la responsabilité de se placer sur ce terrain de chrétien, eh bien la parole leur dit, eh bien, où est la réalité? Et ça, si on ne comprend pas ça, je pense qu'il y a des passages qu'on ne comprend pas non plus, qu'on comprend très mal, et on va ensuite se lancer dans toutes sortes de théories sur la possibilité de perdre son salut, etc. Non, on ne perd pas son salut, mais on peut s'être dit chrétien et ne jamais avoir été sauvé. Ça, c'est autre chose. Et dans la pensée du royaume, ici, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'aspects liés précisément à cette profession chrétienne. On en parlera certainement plusieurs fois dans cette étude, parce qu'il y a tous ces gens qui appartiennent au royaume, qui, si je peux dire officiellement, si on peut dire comme ça, reconnaissent ou sont placés sous l'autorité du roi, mais n'ont pas la vie. Nous appartenons tous à un pays, ici nous sommes français, allemands, belges, etc. Mais d'une certaine manière, tant que nous ne sommes pas engagés dans la politique de ce pays, nous sommes officiellement dans ce pays, mais nous n'y appartenons pas. Nous, chrétiens, nous sommes des pèlerins et des étrangers, même si extérieurement nous appartenons à tel ou tel pays. Notre vraie patrie, là où est notre vie, c'est d'être attaché au Seigneur. C'est la même chose pour cette profession chrétienne. Les gens qui appartiennent extérieurement, mais ce qui est important, c'est où est notre vie.
Je voudrais donner un complément. Il nous faut savoir juste que ce terme de professant est utilisé aussi dans un sens très différent, je dirais même opposé, en ce sens qu'il y a bien des chrétiens, des enfants de Dieu, qui se revendiquent d'être professants, en ce sens qu'ils n'ont pas que le nom de Christ, mais ils vivent comme chrétiens. Donc c'est le sens exactement inverse. Donc c'est juste cette précision, quand nous sommes amenés à parler, utiliser ce terme avec des enfants de Dieu qui, dans la chrétienté, que nous ayons en mémoire qu'il n'y ait pas cette confusion dans le sens du terme, parce que c'est vraiment deux sens exactement inverses l'un de l'autre.
Le choix des mots ici, il est intéressant. Le livret, qu'est-ce que c'est ? C'est une herbe fourragère. C'est une plante qui n'a pas de fruits, pas de graines qu'on peut récolter. Alors que le froment, ben c'est une plante qu'on cultive pour la graine qui donne du fruit. Voilà une différence peut-être, peut nous aider à illustrer la différence entre ces deux choses-là.
Je voudrais revenir sur ce que Pierre-Éric nous a dit, qui me paraît fondamental, en prenant deux passages de la parole. L'un aussi dans Matthieu, c'est Matthieu 25, où nous avons une autre parabole du royaume des cieux, et nous la connaissons tous, ce sont les 10 vierges. Il y en a 5 et 5. Et les unes comme les autres ont de la lumière extérieurement. Mais la parole fait bien le tri. Il y en avait 5 prudentes et 5 folles. Elles étaient toutes les 10 des professantes, mais il y en avait 5 en plus qui avaient la vie. Et 5 qui n'avaient pas la vie. D'ailleurs, la conclusion que le Seigneur apporte à cette parabole est très très nette. Je ne vous connais pas. Et pourtant, au début, elles avaient de la lumière. Ce qui nous montre bien qu'il y a quelque chose d'extérieur. Je voudrais aussi citer un passage, moi, qui m'a beaucoup aidé quant à ces choses. C'est dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, il y en a qui connaissent bien ça. Ce sont les cercles concentriques. Qu'est-ce que c'est que ces cercles concentriques? On va lire le passage d'Éphésiens 4 à partir du verset 4. On a d'abord 3 choses. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance. Voilà 3 choses. On continue. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, de nouveau 3 choses. Et ensuite nous avons, et il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout. Alors qu'est-ce que c'est que 3 cercles concentriques? Vous avez le plus petit cercle qui est celui de la vie, du corps de Christ. Dans ce corps, c'est là que le Saint-Esprit agit. L'unité de l'Esprit que nous avons à garder. Il y a aussi dans ce corps une espérance, celle d'être avec le Seigneur. C'est bien l'espérance que nous avons si nous sommes des enfants de Dieu. Donc, dans ce petit cercle, nous avons ces 3 caractères qui caractérisent le corps, c'est-à-dire ceux qui ont la vie de Dieu. Ensuite, vous avez un cercle un plus large et qui est justement celui de la profession. Qu'est-ce que nous avons dans ce cercle qui contient le petit, mais qui est plus large? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, la foi chrétienne, et un seul baptême, et quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est tous ceux qui sont baptisés. Donc c'est ce cercle plus large qui comporte les enfants de Dieu, mais plus largement ceux qui ont une profession chrétienne. Et alors vous avez ensuite le cercle plus large qui englobe toute l'humanité, à savoir, il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Alors ce n'est pas du tout Père dans le sens de la relation, c'est comme celui qui est à l'origine de toute vie sur la terre.
La première parabole que le Seigneur donne, ce n'est pas le sujet de cette étude, versets 18 à 23, la parabole du semeur, on la retrouve en Marc 4 et en Luc 8. En Marc 4, il y a ajouté aussi la parabole du grain de moutarde. Sinon, essentiellement, c'est la partie-là. Ici, en Matthieu, on a aussi ces 6 paraboles, 3 et 3. Et on voit que les 3, 2e, 3e et 4e, donc la semence dans le champ avec l'ivraie, le grain de moutarde qui devient un arbre et le levain, sont adressés à tous, à toutes les foules, tout le monde est concerné. Alors que les 3 dernières sont réservées aux disciples. Le Seigneur le dit au verset 36, il entre dans la maison, ses disciples viennent à lui, et il va expliquer d'abord la parabole de l'ivraie dans le champ, et c'est très intéressant de voir l'explication du Seigneur là-dessus. Et puis ensuite, les 3 dernières paraboles, qui commencent tous par « encore » au verset 44, au verset 45 et au verset 47, avec le trésor dans le champ avec la perle de Grand Prix et avec le filet dans la mer. Et c'est intéressant de bien cadrer les choses. La première, c'est qui est un travail préparatoire à la parabole du semeur. Et ensuite, il y a les deux fois trois paraboles. Et la première, celle qu'on est en train de voir, celle qui est la bonne semence dans le champ. Et puis il y a l'ivraie. Et le Seigneur va expliquer tout cela. Celui qui sème la bonne semence. Il est dit ici, un homme qui sème de la bonne semence. Et le Seigneur le redit au verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, alors après, il y a toutes sortes de choses qui poussent.
On a parlé du royaume qui aurait dû être établi en puissance. Mais ici, on voit que c'est un royaume et on trouve l'expression dans Apocalypse 1, au chapitre 1er, donc au verset 9. Moi, Jean, je suis votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Un royaume, non pas en puissance, mais en patience. Et si on parle de la profession, eh bien, on peut peut-être s'adresser à un certain nombre de personnes ici qui auraient peut-être le vêtement chrétien, mais qui n'auraient pas la vie. Et si elles n'ont pas la vie, ça veut dire qu'elles n'ont pas passé par la repentance. Elles ne se sont pas trouvées devant Dieu dans leur état de pécheur et de pécheur perdu. Et on voit bien que cette patience, elle se manifeste dans ces paraboles. Le jugement n'est pas... il en est parlé, mais il n'est pas là. Le Seigneur patiente, et on trouve dans cet épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, il nous est dit, au verset 9 au milieu, il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu patiente encore aujourd'hui, mais peut-être que le Seigneur vient. Et en sortant de cette salle, peut-être que quelqu'un ici n'aura pas passé par la repentance. Et alors il est perdu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est à ton cœur que le Seigneur parle. Il patiente encore. Mais un jour, cette patience aura un terme.
Alors, dans notre parabole, ça commence, le royaume des cieux a été fait semblable à un homme. C'est magnifique que le Seigneur peut commencer par lui-même. Dans les trois premiers paraboles, c'est une fois que cette comparaison est faite à lui, comme dans les deuxièmes trois aussi, comme lui, comme marchand. C'est beau de regarder vers le Seigneur. C'est lui duquel tout commence. C'est par lui que la semence est donnée. Comme nous avons entendu, c'est le temps de notre temps encore. Ça veut dire que le Seigneur, certainement, il utilise d'autres, mais c'est par lui. C'est lui qui est l'origine de cette semence, cette bonne semence qui est semée. Un homme qui semait des bonnes semences dans son champ. Premièrement, c'est peut-être encore une fois un peu introductif. Pour moi, c'est toujours remarquable, touchant en fait. C'est lui, comme nous avons entendu, qui était le Messie, qui était rejeté. Il recommence, pas comme un roi, comme un simple agriculteur. C'est l'humilité de notre Seigneur. Et ici, il sème. Il sème toujours les bonnes choses. Que c'est lui, nous avons lu dans le verset 30, 7. Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Nous avons déjà entendu, c'est son nom à partir de, pour ainsi dire, à partir du chapitre 13, et c'est le nom préféré par le Seigneur. Quand il parle de lui-même, la plupart, il parle de lui comme Fils de l'homme. Fils de l'homme a ses deux côtés, ce rejet, ses souffrances, psaume 8, et en même temps, sa glorification après. Ici, ça parle de son temps, premièrement en humilité, et dans la deuxième partie, comme glorifié, qui va venir du ciel, qui sémait une bonne semence dans son champ. C'est à lui. C'est pas à nous, c'est pas à n'importe qui, c'est à lui, c'est son champ. Il a les droits. Et nous, qui font partie de ce champ, qui sont, si nous croyons, si nous croyons au Seigneur, nous sommes ses bonnes semences. Nous sommes à lui. C'est être disciple dans ce champ, c'est disciple dans ce royaume, veut dire nous sommes ceux qui appartiennent à lui, et c'est la raison pour laquelle nous voulons, nous devons être obéissants. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Ici, nous voyons que quand le Seigneur agit, il y a toujours quelqu'un qui agit contre le Seigneur. C'est dès le début, Genèse 3, c'est contre Dieu certainement, avec le diable, c'est ici, c'est toujours le cas. Et il y a un ennemi qui est l'ennemi, qui est Satan. Satan ne veut jamais que le bien, que les bonnes choses que le Seigneur personnellement ou par d'autres fait, sème, qu'elles sont acceptées. Et pour nous, je crois, il est important de comprendre que nous pouvons savoir ces stratégies de Satan. Paul, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, je lis tout ce verset, « Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons ses stratégies. » Et la stratégie de Satan, souvent, c'est aussi dans 2 Corinthiens 11, verset 14, qu'il est dit, des résultats de Satan ne sont pas étonnants, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il fait l'impression que tout va bien avec lui. Et c'est exactement ce que nous avons déjà entendu, ce que nous trouvons ici, que sa sémence, premièrement, est semblable. Et en même temps, c'est tout à fait le contraire. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi? Ça nous montre que c'est déjà le temps où le Seigneur n'est plus sur la terre ici. Parce que le temps où le Seigneur était ici, il a toujours contredit contre Satan. Il a toujours défendu ce qu'il a fait. Mais maintenant, quand il était dans le ciel, il y avait les hommes qui dormaient. C'est nous. Je crois, nous avons parlé sur les portiers quand nous avons eu Néhémie 3 et 4. Et ici, c'est un peu le sens, les portiers. L'homme responsable, les serviteurs du Seigneur, n'étaient pas sur leur veille. Ils n'ont pas agi selon leur responsabilité. Et ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Satan est capable de le faire parce que nous n'étions pas sur notre veille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut confesser.
Mais ici, certainement, le Seigneur ne parle pas sur la responsabilité de ces hommes, juste qu'il montre l'occasion qu'ils ont donnée au Satan, parce que Satan veut toujours le contraire de Christ, et il a réussi. Et le résultat, on voit aujourd'hui. Comme nous avons vu, le Seigneur n'a pas voulu. Nous avons parlé de ces cercles, que les cercles sont différents. Ils pouvaient être les mêmes. Mais parce que nous n'étions pas d'après, l'homme n'a pas réagi d'après les pensées de Dieu. Il y a cette différence entre ces trois cercles. Et ça, c'est vu ici et dans la chrétienté.
Toujours sur ces pensées en rapport avec l'action de Satan, verset 25. Donc l'expression « pendant que les hommes dormaient », on a évoqué l'aspect du manque de vigilance de la part de ceux qui étaient responsables. Et on peut aussi donc souligner l'aspect du côté sournois de Satan. Satan va agir pas de jour, mais plutôt de nuit, pendant que les hommes dormaient. Et il y a deux petites expressions qui montrent cela. Je mentionne 2 Pierre 2, verset 1. Le contexte est un petit peu différent, mais c'est un mot que j'aimerais souligner. 2 Pierre 2, verset 1. Il est question de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition. C'est le mot « furtivement ». Et en Jude, épître de Jude, verset 4, il est question de certains hommes qui se sont glissés parmi les fidèles. Et ça montre tout ce côté sournois, subtil, insidieux de Satan qui va agir d'une certaine manière, on ne le remarque pas. C'est discret, mais c'est mauvais, c'est pervers. Il agit donc pour corrompre, mais en cachette, pour ainsi dire. Et on a dit, effectivement, livrer, donc il sème de livrer, et on a mentionné le côté que livrer ressemble au froment jusqu'à ce que le fruit soit produit. Et là, on distingue la différence. Mais donc on peut voir le côté de Satan qui va imiter, c'est ce qui vient de nous être dit, il imite et on ne le remarque pas tout de suite. Donc ça aussi c'est un enseignement très pratique. Il peut y avoir des choses mauvaises qui s'introduisent et on ne les remarque pas. Et après, quand on les remarque, c'est pour ainsi dire trop tard. Et aussi ce qu'on peut souligner, c'est qu'il est dit qu'il sème de livrer. Il ajoute quelque chose. Et dans la parabole du semeur, le paragraphe précédent, il est intéressant de voir que dans le premier terrain, où il est aussi question du méchant, de Satan, il est dit dans le premier terrain, verset 19, la semence qui est répandue sur la terre, il est dit « Le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur ». D'un côté, il ravit ce qui est semé dans le cœur, il enlève, et de notre côté, verset 25, il sème quelque chose, il ajoute. Et on a, on pourrait dire, deux stratégies de Satan. Il est celui qui enlève et celui qui peut ajouter aussi pour corrompre. Et nous devons être vigilants aussi sur ces deux manières de faire, d'un ennemi qui enlève des choses. On peut penser à la parole de Dieu où il nous est bien enjoint de ne rien ajouter et de ne rien enlever, mais les contextes sont un peu différents, mais simplement pour montrer que Satan, il s'est enlevé et il s'est ajouté. Et nous devons être en garde par rapport à cette manière de faire.
Remarque générale sur les trois premières paraboles que nous avons lues, qui nous parle donc du côté extérieur du royaume des cieux. Je ne sais pas comment vous les appréhendez, quand même très négatif, très très négatif. Alors, il y a un exercice qu'on fait faire souvent aux enfants dans les classes. Les enfants, vous le faites peut-être de temps en temps. Votre enseignant vous dit, vous lisez ça et vous essayez d'y mettre un titre. C'est un bon contrôle pour savoir si les enfants lisent et ont compris ce qu'ils ont. Alors, si on devait mettre un titre à chacune de ces paraboles. Première, la parole de l'ivraie. Le titre nous a été déjà donné tout à l'heure par Manuel. C'est mélange, mélange. Satan est passé maître dans cette stratégie du mélange. Il sait que s'il vient qu'avec l'ivraie, on dit « Ah non, c'est de l'ivraie !» Mais quand il introduit, comme on l'a dit, un peu sournoisement. Première parabole, donc, mélange. Deuxième parabole, tu as réfléchi ? Comment on pourrait appeler titre à cette deuxième parabole, qu'il s'agit du grain de moutarde ? La puissance terrestre. Un arbre, elle a des racines dans la terre. Puissance terrestre. Troisième parabole, le levain qu'on a mis dans la pâte. Quel titre on pourrait donner ? Introduction du mal. Introduction du mal. Les images dans la parole de Dieu sont quelquefois, je prends l'exemple, comment dire, peuvent dire plusieurs choses. Je prends l'eau, l'eau, ça peut être la parole, ça peut être la sanctification, ça peut être aussi le jugement, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a une image dans la parole qui est invariable, c'est le levain. Ancien, Nouveau Testament, vous pouvez aller partout dans la parole, ça nous parle toujours du mal. Doctrinal, moral, hein, Galates plutôt doctrinal, 1 Corinthiens 5 plutôt moral. Et c'est ce que Satan fait, il introduit le mal. On voit là trois stratégies de Satan. Et à toutes les trois, nous avons besoin d'être très attentifs. Le mélange, la puissance terrestre, lorsque la chrétienté est devenue une puissance politique. Il y a un des premiers pères de l'Église qui a dit « J'ai cherché le monde ». Je l'ai trouvé dans l'Église. J'ai cherché l'Église. Je l'ai trouvé dans le monde. Cette puissance terrestre politique qui n'a pas changé depuis le IVe siècle où Constantin a officialisé que le christianisme devenait la religion de l'Empire et où le politique et le religieux. Ça a été comme ce grand arbre. Vous direz, j'anticipe avec ça, oui. Mais juste ces trois titres, mélange, puissance terrestre et introduction du mal.
Nous avons bien lu donc que c'est le chant du Seigneur, c'est son chant, et c'est lui qui sème, donc qui sème les vrais chrétiens. Et puis, Satan intervient, et dans ce champ-là, il sème, il met des non-chrétiens. Des vrais non-chrétiens, mais qui se disent chrétiens. Alors c'est quelque chose qui est très important, et je m'adresse plus particulièrement aux jeunes. Tu as peut-être des amis chrétiens, peut-être qui viennent d'autres milieux, qui parfois peut-être te poussent à faire des choses un peu plus larges que tu n'as pas l'habitude de faire. Est-ce que ce sont des vrais chrétiens ? Est-ce qu'ils sont réellement sauvés ? Est-ce qu'ils ont la nouvelle vie ? Il y a un danger aussi, et ici je parle pour des mariages. On entend parfois, nous savons qu'il y a eu des mariages malheureux. Oui, on a voulu se marier avec quelqu'un qui était chrétien et on s'est contenté de, oui, dans la maison, il y avait un calendrier de la bonne semence. Oui, ses parents sont chrétiens. Oui, il a été à l'église. Et on ne va pas plus loin dans les recherches. Et puis, on se fiance, on se marie. Et puis, il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'on réalise que ce n'était pas un vrai chrétien, qu'il n'avait pas la vie. Nous connaissons peut-être chacun des cas comme ça. Ce sont des cas bien malheureux. Mais c'est parce que, voilà, nous n'avons pas fait attention que dans ce champ, il y avait ce que l'ennemi avait semé. Et pour cela, il faut d'abord que nous ayons, nous, une relation personnelle avec le Seigneur, une vraie relation, pas seulement venir le dimanche, venir aux réunions, de temps en temps lire la Bible, non, avoir cette relation avec un Sauveur, c'est lui qui m'a sauvé, avoir cette relation avec Dieu comme un Père, je suis son enfant. Et déjà, voilà, si nous avons cette habitude de lire régulièrement la parole, eh bien, nous verrons aussi plus facilement lorsque la personne qui se dit chrétien, que nous côtoyons, nous réaliserons plus facilement que ce n'est pas un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé. Mais c'est vrai que parfois, c'est très difficile. On a évoqué les 10 vierges. Rien ne les différencie, rien. Vous êtes peut-être avec des jeunes, vous chantez peut-être des cantiques ensemble. Vous allez à des rencontres chrétiennes. Peut-être que l'un ou l'autre prie, mais il n'a pas la foi. Et pour cela, rien de tel, si nous avons des doutes, de prier le Seigneur qui vous montrera le chemin. Combien de mariages ont débuté comme ça? On pensait que. Et ensuite, nous savons que le résultat après est bien triste. Que le Seigneur nous donne à tous de faire attention. Et avec Internet, c'est facile de tomber sur plein de sites, soi-disant des sites chrétiens. Mais là encore, nous ne savons pas. Et s'il y a des choses où nous avons des doutes, revenons à la parole. Comparons tout à la parole et nous verrons si vraiment cela vient d'un chrétien, d'un vrai chrétien et d'un chrétien qui aime le Seigneur.
L'ivraie qui est semée, c'est, il est dit à plusieurs reprises, un ennemi vain sema de l'ivraie parmi le froment. On voit qu'il y a une tromperie. On le retrouve au verset 28, un ennemi a fait cela. Et puis, encore au verset 38 à la fin, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Le Seigneur Jésus lui-même le dit. C'est le diable qui apporte cette ivraie dans le champ. Et c'est de la tromperie, souvent. L'apôtre Paul avait averti les Corinthiens en 2 Corinthiens au chapitre 11, en leur disant, attention, 2 Corinthiens 11, on peut lire juste deux expressions, verset 3. Je crains que vos pensées ne soient corrompues, détournées de la simplicité quant au Christ. Si celui qui vient prêche un autre Jésus, verset 4, un autre esprit, un esprit différent, un évangile différent, il dit, mais vous pouvez le supporter, attention, vous pourrez le supporter. Et à la fin du paragraphe, au verset 13, il dit, de tels hommes sont de faux apôtres, ils se transforment en apôtres de Christ. Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Donc on voit, attention, il y a une tromperie de la part de Satan à travers des enseignements. Comme l'apôtre le disait déjà en acte 20 aux anciens d'Éphèse, il entrera parmi vous, entre vous-même, des loups qui n'épargnent pas le troupeau. Ils ne sont pas là pour faire du bien, n'est-ce pas? Ils trompent. Et Satan trompe toujours avec ceux qu'il emploie pour semer l'ivraie. On ne voit pas. D'ailleurs, il faut attendre que la tige ait monté pour voir qu'il y a une différence entre l'ivraie et le froment. Que nous soyons attentifs, ne pas nous laisser détourner par ceux qui apportent autre chose, n'est-ce pas? Autre chose que Christ. Autre chose que la personne du Seigneur. Des doctrines qui peuvent être attrayantes, qui peuvent nous tromper. Et si nous sommes, comme il est dit, là, insouciants, ou si nous dormons en sommeil, on peut être tout d'un coup attrapé par cette et détourné de ce qui est la simplicité quant au Christ.
J'aimerais juste faire deux, trois petites remarques brièvement en rapport précisément avec ce texte qu'on lit et l'explication qu'en donne le Seigneur et des expressions qu'on a employées et des explications qu'on a données. D'abord, on est très frappé de voir combien le Seigneur explique cela en si peu de mots. Les mots du Seigneur sont très simples pour expliquer cette parabole de l'ivraie dans le champ, du champ et de l'ivraie. Et pourtant, ils sont extrêmement profonds et ils nous éclairent sur toute cette parabole. Donc, le Seigneur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. On a souligné déjà ce caractère sous lequel le Seigneur se présente. Le champ, c'est le monde. Et on a dit tout à l'heure, il sème dans son champ. Alors, on pourrait s'arrêter et se dire, mais est-ce que vraiment, le monde aujourd'hui, tel que nous le voyons, il appartient au Seigneur? On a dit au début de notre entretien que finalement, tout ceci se place, cette pensée du royaume, elle se place moralement, spirituellement, après la mort, la résurrection, la glorification du Seigneur. Et tournons-nous vers la fin de l'évangile selon Matthieu. Le Seigneur dit à ses disciples, le Seigneur ressuscité vient dire à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. » Et ainsi, cette autorité, le Seigneur l'a reçue en vertu de son œuvre, il a reçu cette autorité et de ce fait, le monde, c'est le champ, c'est bien le monde et c'est bien son champ. Il a autorité sur le monde. Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas exercer publiquement cette autorité, mais elle lui est donnée. Nous verrons, Dieu voulant, dans la parabole du trésor dans le champ, qu'il y a un autre aspect, c'est que le champ, il l'a acheté. Ces deux choses, on pourra certainement y revenir, parce que ces deux choses sont importantes sur les droits du Seigneur, sur le monde. Et par conséquent, sur nous-mêmes, puisque nous sommes dans ce monde. Donc le champ, c'est le monde, et il est à lui, c'est son champ. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, comme cela vient de nous être rappelé. Il y a les vrais croyants, et il y a l'ivraie, les fils du méchant. Alors, nous avons lu la première parabole, la parabole du semeur, et nous disons, mais qu'est-ce que le Seigneur sème? Il sème la parole. Et ici, nous voyons que le semeur a semé non pas simplement la parole, mais des personnes, les fils du royaume. Alors, je pense que pour comprendre cela, comprendre comment, si on peut dire, le Seigneur va passer de la parole semée par le semeur aux fils du royaume, aux vrais croyants, eh bien, je crois que l'explication, nous la trouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 23, l'apôtre nous dit, « Vous êtes régénérés, vous avez cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance, vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la vivante et permanente parole de Dieu. » Il n'y a aucune contradiction entre le fait que le semeur sème la parole de Dieu qui va entrer dans le cœur, si l'ennemi ne vient pas la prendre, et le fait qu'il sème les fils du royaume. Pourquoi? Simplement parce que le caractère, notre caractère comme chrétien, il est formé par cette parole qui n'est pas une parole purement extérieure, la parole de Dieu, mais qui est une parole vivante et opérante. Qui sont les fils du royaume, ceux qui sont les vrais chrétiens, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et en qui la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous le dit en Jean, mais la parole de Dieu a opéré comme une parole vivante qui a formé notre caractère, qui nous forme comme ces enfants de Dieu, ces fils du royaume. Et ensuite, donc, il y a l'ennemi qui sème, c'est le diable. Le Seigneur dit les choses telles qu'elles sont. Les hommes ne veulent pas croire au diable. Dans la chrétienté professante, on parle de légende, etc. Le Seigneur nous dit, dans des termes qui n'appellent aucune interprétation humaine, mais qui ont l'autorité toute simple de la parole du Seigneur, l'ennemi qui a semé, c'est le diable.
Juste une remarque sur l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante, et la consommation d'ivraie, ça donne de l'ivresse. un sentiment d'ébriété, un sentiment d'excitation. Et souvent, les erreurs doctrinales, au départ, il y a une espèce d'excitation. On trouve que c'est nouveau, c'est magnifique, c'est quelque chose de nouveau. On pense dépoussiérer le christianisme, alors on présente des choses nouvelles. Et une remarque sur Hyménée et Philette dans 2 Timothée. De Timothée 2, verset 17, « Et leur parole rongera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu. » Hyménée, dans le sens du mot Hyménée, c'est un chant dans un mariage, c'est un chant qui est gai dans un mariage, c'est un chant qu'on chante avec excitation, c'est une journée magnifique. Et donc, dans le sens d'Hyménée, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique, qui ont une présentation nouvelle et qui peuvent séduire. Livrer, ça provoque de l'ivresse, un sentiment d'ébriété. Prenons garde, et c'est peut-être une tendance actuelle aussi dans les assemblées, à vouloir dépoussiérer le christianisme. Et donc on nous propose des choses nouvelles. Hyménée et Philette, ils n'avaient pas nié au fond la résurrection, ils étaient d'accord que la résurrection existait, c'était vraiment quelque chose de vrai. Mais elle avait déjà eu lieu. Et donc on voit le diable, comment il travaille. Il apporte quelque chose. Et la vérité, on enlève quelque chose. Et si on enlève quelque chose à la vérité, ce n'est plus la vérité.
Je crois, en continuation de ce que tu dis, Michel, même si ici, dans notre paragraphe, le Seigneur dit qu'il faut attendre jusqu'à la fin, on ne peut certainement pas dire s'il y a quelque chose qui est semblable à la vérité aujourd'hui, il faut attendre et rien faire. Il faut certainement, comme l'apôtre Paul l'a fait, il faut montrer les résultats d'une certaine doctrine, etc. C'est pas certainement, c'est pas la doctrine de notre paragraphe, mais il faut prendre ensemble certainement la doctrine du Nouveau Testament. Je viens d'une conférence sur 1 Corinthiens 15. Il y avait ceux qui ont dit il n'y a pas de résurrection. Est-ce qu'il faut laisser ou quoi? Certainement pas. Il faut montrer les résultats. Et ça, c'est vu ici. Il y a des résultats. Quelquefois, peut-être plus tard seulement. Mais il y a toujours un résultat de quelque chose qu'on sème. Et c'est pour le bien ou pour le mal. Et nous avons la responsabilité de montrer les origines comme aussi les conséquences d'une certaine doctrine, d'une certaine vérité qui est prêchée, pour montrer le danger qui peut être lié avec ce qui est semé. Sur ce que tu as dit, Pierre-Éric, j'aimerais ajouter, même si c'est avec le mot acheter, mais je crois que c'est bien placé ici dans notre paragraphe 2 Pierre 2 sur que le monde appartient, pour ainsi dire, au Seigneur. Il est dit, Pierre dit dans 2 Pierre 2, verset 1, au milieu, ces faux docteurs, etc., prophètes, introduisent furtivement des sectes, des perditions, reniant aussi le maître qui les a achetés. Et parce que nous avons dans notre paragraphe ces fils de méchants, tous dans ce sens-là, appartiennent au Seigneur. Ça veut dire, il les a achetés, ils sont responsables devant lui. Certainement, ils n'ont pas la vie, mais ça nous montre que le Seigneur a vraiment autorité sur le champ tout entier. Et il y a deux sources ici qui sont nommées, appelées. C'est le Fils de l'homme ou Satan. Ça nous montre comment nous devons lire la parole. Ça nous présente des principes. Aujourd'hui, certainement, s'il y a quelqu'un qui dit une fausse chose, on ne peut pas dire c'est Satan et c'est l'instrument de Satan. Mais le principe reste. Il y a deux sources. Et il faut avoir un discernement d'après la parole en communion avec le Seigneur. Pour moi, c'est toujours encourageant de lire. C'est pas non plus comme ici, c'est pas une exhortation, c'est un fait, une réalité. Comment le Seigneur parle des brebis. Il écoute la voix du bon berger parce qu'il connaît cette voix. Et il n'écoute pas à la voix des étrangers, c'est Satan. Est-ce que nous, c'est une application maintenant que je fais, est-ce que nous sommes ceux qui écoutent le diable ou ses instruments ou des personnes qui ne viennent pas avec cette bonne semence, ou est-ce que nous avons que cette simple œil et les oreilles simples pour écouter que à cette voix du Seigneur. Ici, nous voyons quand quelqu'un a des oreilles pour Satan, le résultat, c'est l'ivraie.
Juste donner un exemple dans l'Ancien Testament. Connaissons certainement ce passage du deuxième livre des Rois au chapitre 4 où chacun s'en va cueillir des herbes et puis quelqu'un trouve des colocanes sauvages. On ne les connaissait pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ça rejoint ce qui nous est dit dans le dernier chapitre, dans Hébreux chapitre 13, il est question de doctrine étrangère. Étrangère à quoi? Étrangère à Christ. Christ est le centre de toutes les doctrines que nous avons à retenir. Doctrine qui n'a pas comme centre Christ, c'est quelque chose que nous avons à rejeter. Et là, il y a cet homme qui trouve des colocantes sauvages, et alors il y a cet exercice que ceux qui dorment dans notre paragraphe n'ont pas eu, c'est quelqu'un qui a dit « la mort est dans la marmite ». La mort, c'est quand même une expression très, très forte. La mort est dans la marmite. Et alors on a apporté justement la farine qui nous parle de Christ. Mais en opposition à cet homme et à cette marmite empoisonnée, il y a tout de suite après un exemple qui est extraordinaire et qui est positif. Il y a un homme qui vient de Baal Shalisha. Oh là là, Baal Shalisha. Je pense à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont affaire au monde. Vous venez vous aussi peut-être à la réunion de semaine, vous venez de Baal Shalisha. Vous avez été peut-être avec des collègues qui vous ont entretenu de plein de choses. C'est Baal Shalisha marqué par l'idolâtrie de ce monde. Mais cet homme, voyez, malgré peut-être son travail qu'il était obligé de faire, il était à Baal Shalisha, il vient avec tout, quoi ? Il vient avec des premiers fruits, 20 pains d'orge, du pain en épi dans son sac, c'est-à-dire que des symboles de la personne de notre Seigneur Jésus. Et que ça puisse être aussi notre désir, dans le rassemblement, ne pas dire, bon, ben, j'ai les batteries à plat, il faut bien que je recharge, mais peut-être venir avec quelque chose que le Seigneur nous a donné, alors même qu'on vient de Baal Shalisha, et apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, Élisée? Mais donne cela au peuple et qu'il mange. Je voudrais le dire à un jeune frère, peut-être, mais donne cela au peuple et qu'il mange, de manière à ce que l'assemblée soit nourrie de bons grains et non pas de colocantes sauvages.
au verset 27, on a la question qui se pose, puisque verset 26, la tige monte, produit du fruit et l'ivraie paraît. Donc les esclaves du maître de la maison s'aperçoivent qu'il y a ces deux semences qui ont été semées et ils posent la question au maître: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il a livré? Il leur répond: un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent: veux-tu que nous allions et que nous la cueillions? Donc on remarque le côté positif, très positif chez ces esclaves, c'est qu'ils demandent au maître avant d'agir, ou avant de, pour avoir l'autorisation ou pas d'agir. Donc on voit une forme de dépendance et d'obéissance de leur part. Et donc la question, est-ce qu'il faut cueillir cet ivraie? Et le maître dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, sur ce qui était la bonne semence, ce qui était livré, ce qui était le champ, on comprend que la question qui est posée, veux-tu que nous cueillions livré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, veux-tu que nous enlevions du monde, du champ, ces personnes qui professent être chrétiennes, mais qui ne le sont pas réellement? Et ça revient à dire quoi? Il me semble, vouloir enlever quelqu'un de la profession chrétienne, il me semble que ça veut dire vouloir le tuer. Vouloir le sortir du champ, le sortir du monde, c'est l'éliminer complètement. Et donc, la question c'est, est-ce qu'il faut ôter de la profession chrétienne, ôter la vie, en quelque sorte, à ceux qui prétendent être chrétiens et qui ne le sont pas réellement? Et le maître dit non. De peur que vous ne déraciniez le froment avec elle. Nous ne serions pas capables de faire la distinction entre des vrais enfants de Dieu et de simples professants chrétiens. Et donc, on ne peut pas faire nous-mêmes cette distinction, ce tri. Nous devons laisser les choses telles qu'elles, en attendant le temps de la moisson où le Seigneur s'en occupera, lui. Donc, ce passage nous montre que, en ce qui concerne le royaume des cieux, la profession chrétienne, nous n'avons rien à faire pour essayer de faire le ménage ou un tri entre les vrais et faux croyants. Nous devons laisser faire les choses et c'est le Seigneur seul qui fera ce tri. Et on comprend par là que l'enseignement qui est donné ici n'est pas le même que celui qui est donné en rapport avec l'Assemblée. On l'a déjà dit, mais je le répète, en ce qui concerne l'Assemblée, on a à recevoir ceux qui sont des vrais enfants de Dieu et on a à ôter le méchant du milieu de l'Assemblée selon 1 Corinthiens 5. Donc ça montre que ce qui est dit ici, ce n'est pas en rapport avec la vie pratique de l'Assemblée, mais c'est en rapport avec cet état de la profession chrétienne où il y a un mélange de vrais et de faux professants chrétiens. Et donc le Seigneur nous dit, c'est lui qui fera ce tri en son temps.
Je voulais juste dire ceci, n'avons-nous pas, dans ce que nous voyons aussi, un exemple avec les 12 disciples? En fait, rien ne les distinguait. Et pourtant, il y en a un qui était, il est dit d'ailleurs que Satan entra en lui. Et on voit qu'aucun des autres disciples n'a pu le voir, n'a pu le constater. C'est le Seigneur qui a fait ce tri tout à la fin.
Très courtement, mais par rapport à ce que Eric nous a dit, ces versets devraient être médités par une fraction de la chrétienté qui pense qu'il faut agir sur les rouages du monde pour améliorer, pour promouvoir le christianisme de manière à ce que le bien triomphe du mal. C'est des pensées qui sont défendu par des chrétiens que j'appellerais millénaristes. Le millénarisme, c'est quoi? C'est promouvoir, agir sur les leviers politiques, économiques, beaucoup aux États-Unis en particulier, pour promouvoir, pour essayer d'améliorer les choses en vue de l'arrivée, de l'apparition du Seigneur. Or, la parole est claire, le monde, même le monde religieux, gît dans le méchant. Et quand il nous y dit dans Jean 9, c'est le Seigneur qui parle, « La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. » La nuit, c'était quand on a mis le Seigneur Jésus sur la croix. Alors on dira, mais est-ce qu'on ne peut plus travailler, nous, pour les... Bien sûr qu'on peut, mais en tant que monde, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde, mais en tant que monde, son organisation même chrétienne, la profession, nous n'avons pas à essayer d'extirper le mal, mais nous avons à être fidèles et en ayant affaire au Seigneur. C'est des versets comme ça qui devraient être médité par bien des chrétiens aujourd'hui. Il y a des millions de chrétiens qui sont dans cette optique millénariste qui est complètement contraire à la parole de Dieu.
On a dit que ces trois premières paraboles étaient plutôt déprimantes. En réalité, c'est la grâce du Seigneur qui nous prévient. Parce que si on avait découvert par nous-mêmes l'état de la chrétienté actuelle, sans que le Seigneur ne nous ait prévenu de ce qui allait arriver, on aurait pu être troublé. Mais le Seigneur savait. Cela a été dit, le Seigneur reste en contrôle de la situation. Il y aura un moment où les choses seront jugées. Mais que nous puissions avoir cette confiance que le Seigneur connaît tout, et en particulier en 2 Timothée 2, que le Seigneur connaît ceux qui sont siens.
Rebondir sur ce mot déprimant, ce passage nous parle aussi de la patience de Dieu. Il connaît l'état du champ, mais il y a cette patience qui agit pour que chaque graine ait produit son fruit à maturité. Ça, c'est important, voilà, de voir cette patience aussi qui agit et qui est réconfortante aussi pour nous.
« 244, verset 1 ».